Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Ambrusum Lego. Avec Manon en face de moi qui va me rappeler son nom que j'ai déjà oublié.
Le Vanier.
Voilà. Et quand est-ce qu'est née cette idée d'un Lego géant en fait?
Alors, on va construire une maquette sur 6 mètres carrés en Lego du relais routier d'Ambrusum jusqu'au pont Ambrois avec une section de la Via Domitia. Et ce projet-là est né il y a à peu près un an, au mois de novembre 2024. Avec un premier contact avec un prestataire qui travaille uniquement sur le Lego, qui s'appelle Unibric, qui est du côté de la région de Lyon.
D'accord.
Après avoir eu connaissance de ce qu'ils avaient fait au musée de Lugdunum, où eux, ils avaient fait une maquette de 20 mètres carrés.
D'accord.
Donc voilà, donc l'idée c'était de reconstituer le relais routier, qui est aujourd'hui une propriété privée auquel on n'a pas accès. Et donc, pour pouvoir montrer au public de quoi il en retourne, de cet espace un petit peu particulier qui a été très, très riche en fouilles archéologiques.
Alors, je vous coupe deux petites secondes. Ce relais routier, effectivement, on n'y a pas accès puisque c'est une propriété privée, qui est greffée dans le site, en fait, qui s'inscrit dans le site. C'est une partie qu'on connaît très bien puisque l'archéologie nous renseigne, mais on ne peut pas aller sur la parcelle.
C'est ça, c'est la partie qui est juste devant le musée, mais on n'y a pas accès. Mais ça a été fouillé pendant plus de 30 ans quand même. Donc quelque chose qui était assez exceptionnel au moment de la fouille, puisqu'il n'y avait pas d'autres relais routiers sur la Via Domitia qui avait été fouillé à ce moment-là, qui avait été retrouvé intact en tout cas.
Donc, petit aparté, cette Via Domitia, il faut imaginer, donc c'est un relais routier. Des gens arrivaient à cheval forcément, pas à pied, ça fait quand même trop long. À cheval, et ils vont faire escale parce que c'est sur leur route. Alors, leur route pour aller où?
Alors, on a le choix. Soit on arrivait de Nîmes et on repartait dans l'autre sens.
Côté Espagne.
Soit l'inverse, on repartait direction Nîmes, peut-être Rome comme destination finale.
Oui, d'ailleurs, moi qui m'intéresse beaucoup à Martial et au fait qu'il se soit déplacé de sa ville natale de Bilbilis à Rome, j'ai imaginé dans mon livre qu'il s'arrêtait à Ambrusum. Imaginons, on peut toujours. Alors donc, ce projet, une fois que vous l'avez eu, que vous avez contacté cette société, comment ça s'est mis en place? Il a fallu faire des schémas, enfin, comment ça s'est fait?
Alors, il a fallu reprendre, en fait, un gros travail de compilation de données. Donc entre les rapports de fouilles, les différents plans, les vues aériennes, sachant qu'on a aussi une application qui s'appelle Ambrusum 3D, qui reconstitue aussi en 3D cette partie des fouilles. Donc ça, ce travail préparatoire était déjà largement fait, et on a pu s'appuyer sur les vues 3D aussi pour lui donner, lui, l'idée à la société, celui qui gère la société, pour qu'il ait une idée de à quoi ça peut représenter. Voilà, un peu l'aspect visuel. Donc, il y a eu un gros travail.
Donc, ça a été des mois, j'imagine.
Ça a été entre, on va dire, décembre et jusqu'à début avril. Voilà, globalement. Donc, il a fallu faire des schémas pour reprendre les plans et les vues aériennes et mettre des flèches dans tous les sens pour indiquer à quoi ça correspond. Si, par exemple, dans une auberge, on a des chambres, on a une salle de commerce ou non. Éventuellement, quel type de mobilier aussi on a pu retrouver.
Et est-ce qu'il y aura des personnages? Oui.
A priori, on devrait avoir une 75aine de personnages, des animaux, pas mal de vie. Parce que l'idée, c'est aussi de ne pas avoir quelque chose de figé, mais d'avoir des petites scènes de vie pour comprendre finalement...
ce qui se passait, le personnel, les gens qui venaient, les clients, enfin bon, les chevaux aussi.
On peut beaucoup d'animaux, donc on va avoir des chevaux, mais on va aussi pas mal avoir des bœufs, qui seront aussi à construire, d'ailleurs, donc qui seront en pièces détachées. Ça va être assez rigolo à monter, sans doute. Je crois qu'on va aussi avoir des poules, des porcs, vraiment les animaux qu'on pouvait retrouver et qu'on sait par l'archéologie qu'on a retrouvé dont on a retrouvé les ossements sur place. Donc qui existaient, en tout cas, qui étaient cohérents avec Ambrusum.
Et alors donc, une fois que ça a été finalisé comme plan, il a fallu modéliser.
Et là, c'était plus notre travail. Donc une fois le travail envoyé à la société, eux ensuite devaient réussir à faire les modélisations. Donc des principaux bâtiments, ils n'ont pas modélisé les 6 mètres carrés, ils ont fait les principaux bâtiments.
Oui, parce
bâtiments.
Que les 6 mètres carrés correspondent dans la réalité à 6 mètres carrés. C'est vraiment les dimensions. C'est pas une dimension que vous avez choisie en fonction des tailles des Legos, par exemple.
Non, on n'a pas choisi en fonction des tailles des Legos. On a beaucoup choisi en fonction de la place qu'on a aussi pour l'exposition.
Oui,
derrière.
On va en reparler après parce qu'effectivement... Là, d'abord, ils seront installés où, les gens, pour faire ça ?
On sera dans l'accueil du musée, notamment la deuxième semaine où vraiment on va tout mettre en place, donc où on viendra installer les bâtiments les uns à côté des autres. Et ça ne bougera plus après. Donc, ça sera en exposition dans l'accueil du musée jusqu'à la fin du mois de mars 2026.
Oh là là, ça va avoir de l'allure, hein.
C'est chouette.
Et il faudra surveiller parce qu'il va y avoir des tentatives de prendre les petits personnages, les animaux, etc.
Il va falloir réfléchir en effet à où on place les objets et peut-être avoir un...
Ça sera peut-être un petit peu en hauteur ou non ?
Ça sera sur des tables, mais on va essayer de mettre une ficelle tout autour pour quand même montrer que... Il ne faut pas prendre les Legos parce que c'est une location. Et nous, après, on va rendre toutes les pièces aux prestataires.
Voilà. Donc, on va faire tout dans l'ordre. Mais effectivement, cette question de l'après va nous intéresser beaucoup. Donc là, ça a été modélisé. Combien de temps ça a pris, ça ?
Ça a pris un peu de temps. On va dire que je ne sais pas exactement à quel moment il a vraiment commencé. Il a les plans depuis avril.
Alors, quand vous dites « il », ce n'est pas qu'une personne, c'est tout.
J'avais contact avec une seule personne.
D'accord.
Ce n'est pas une grosse société. Donc, c'est le patron, en fait, de cette société-là. C'est avec lui que j'avais contact. Et donc, je crois que c'est lui qui a fait les modélisations. Mais il n'y a pas beaucoup d'infos de plus. Mais voilà, il y a entre avril et, on va dire que là, le mois de septembre.
D'accord. Voilà, donc c'est tout proche quand même. Hein, c'est, voilà.
Après, je sais qu'il a beaucoup de projets aussi. Donc, combien de temps effectif il a consacré aux modélisations du relais routier, je ne sais pas trop. Il ne nous l'a pas précisé.
Et alors, les couleurs, parce que je sais aussi, pour avoir un ami qui est fan de Lego et qui a lui fabriqué lui-même la maquette, puis ensuite à la construction de la maison carrée en Lego, que parfois il était obligé de commander les pièces dans d'autres pays parce que pour avoir telle dimension, c'est pas forcément toujours en France qu'on peut trouver ça.
C'est ça. Nous, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il se fournissait pas mal, je crois, aux Pays-Bas.
Parfois aux États-Unis.
Je crois qu'il ne sortait
pas
de l'Europe.
Pas de l'Europe,
parce
d'accord.
Qu'il a quand même une idée d'éco-responsabilité derrière, donc de faire en sorte d'avoir des endroits qui font de la récupération, finalement, de Lego. Et donc, il se fournit dans des grandes centrales comme ça, mais qui ne sont pas, en effet, forcément en France... Ce qui pose des fois des petits soucis d'approvisionnement.
Oui, de prix aussi. Enfin bon, ça, c'est pas votre problème. Vous avez signé un contrat global et après, vous occupez pas du reste.
Ça peut jouer sur les délais de livraison.
Oui, voilà, c'est ça. Et les couleurs aussi, parce que ça, selon les pays, il n'y a pas les mêmes couleurs non plus.
Eh bien, il nous a dit hier qu'en tout, Lego avait 111 couleurs de pièces.
Oui.
Donc, en effet, dans les 111, y a toute une palette qu'il va falloir bien ouvrir ses yeux au moment de la construction et ne pas se tromper entre du beige, du blanc.
Ah oui, oui, bien sûr. Mais ces couleurs, vous avez eu votre mot à dire là-dessus ou non ?
Non. Alors, il faut savoir que les modélisations, il les a faites, mais on a eu un droit de regard. On lui a dit de corriger telle ou telle chose par moment quand même. Après, sur les couleurs... Non, globalement.
Il a essayé de faire le plus ressemblant possible.
Les plantes sont toujours vertes, les murs sont blancs et les tuiles ressemblent à des tuiles. Donc, bon, il n'y avait rien de choquant.
Très bien. Et donc là maintenant, tout à l'heure, Simon m'a dit que vous avez reçu aujourd'hui ou hier un premier carton.
Aujourd'hui.
Oui,
il y a
deux heures. C'est gros comme carton ?
Ce carton-là faisait 29 kilos. Les pièces sont dans des gros sachets zip, avec plein de petits sachets à l'intérieur pour séparer selon les pièces, voilà, les pièces du bâtiment. Par exemple, l'hôtellerie, qui est le plus gros bâtiment du relais routier, on a 5 grands sachets Zip. Quand je dis grand, c'est pas très radiophonique, ça.
Mais par rapport à votre taille, maison, ça vous arrive où ?
Non, c'est... On va dire
ça fait un tronc d'adulte.
Voilà, ça va de la hanche jusqu'à l'épaule.
D'accord, c'est déjà pas mal.
Avec toutes les pièces. Je crois qu'en tout, pour la totalité de la maquette, on est à peu près à 50 000 pièces.
D'accord.
Avec des toutes petites et des un peu plus grosses pour le montage de murs.
Et alors, vous allez être obligé d'ouvrir les sacs à l'avance pour tout trier. Alors, ils sont déjà par endroit où les mettre, mais vous allez peut-être devoir trier les couleurs, enfin, pour faciliter le travail des gens, ou alors
non. Non, normalement, le prestataire, c'était aussi dans son travail, c'était de créer des notices de montage. Vraiment...
En français ?
En français. Non, c'est lui qui les a faites, donc... Oui. Avec vraiment tout de détaillé dedans. Donc avec à chaque fois le numéro d'étape, les pièces à prendre, à choisir, et comment on les monte derrière. Et par exemple, pour un bâtiment comme la forge, la maison à la forge, il y a 400 étapes.
D'accord.
Après, c'est des étapes où parfois il y a juste deux pièces à monter l'une sur l'autre. C'est des petites étapes, mais voilà, il y a quand même 400 étapes. Voilà, pour montrer. Et à chaque fois, la pièce est détaillée, donc ça va être aux gens de chercher parmi toutes les pièces qu'il y a pour trouver les bonnes à monter. Donc, il y aura quand même un petit peu de recherche à faire, je pense. Surtout sur les premiers.
Oui, voilà, je pense que les premières séances, ça va être un peu dur. Hein. Et effectivement, alors que se passerait-il si au bout de la première semaine, parce qu'on a oublié de dire, mais tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, on va détailler le côté pratique pour ceux qui viennent faire le Lego. Là, pour l'instant, je suis de votre côté. Donc, il va falloir penser que peut-être au bout de 4 premières journées, tout sera fait.
Normalement, non.
Bon.
D'après les calculs du prestataire, 50 000 pièces, ça ne se fait pas en 4 jours. Parce qu'il faut savoir que voilà, ça va durer 2 heures, mais l'atelier dure 2 heures, mais on va avoir 1 heure de construction.
Oui,
vraiment
le temps
effective.
D'arriver, de regarder un petit peu ce qu'il faut faire.
Il y a quand
faire.
Même la partie théorique avant. Donc en 1 heure, globalement, on ne va pas monter tant que ça non plus. Bon, quand même 500-600 pièces, a priori, par personne.
Oui.
C'est déjà pas mal.
Ah oui, ça me paraît énorme, oui.
Mais bon, dans l'idée, si en effet, on voit que les gens sont beaucoup trop efficaces...
On cassera tout.
On peut toujours
on
démonter. On peut toujours démonter et éventuellement, on verra pour proposer d'autres créneaux.
Oui.
Ça reste très facultatif. L'atelier va se passer vraiment en deux temps. On va avoir un côté... L'idée, c'est de ne pas faire que du Lego. C'est quand même d'avoir une explication de pourquoi on le fait, quel est l'intérêt de faire ça en gros somme et autres. Donc, on va avoir une partie un peu plus théorique où on va être en salle avec un diaporama.
Et quand vous dites « on », c'est vous et d'autres personnes
ou ça alors va être les médiateurs du musée.
Voilà, tout le monde va être mobilisé.
Globalement, moi.
Oui.
Mais ça peut inclure les autres membres du musée.
Alors, j'interromps 2 secondes votre explication pour vous demander justement pourquoi vous vous êtes proposé pour ce projet qui intéressait tout le monde. Vous êtes battu pour l'avoir. Comment ça s'est passé?
Disons que il n'y avait que moi aussi de...
De disponible.
De disponible avec le temps. J'ai une autre collègue qui était intéressée, mais elle est tombée enceinte. Donc, elle n'aurait pas pu suivre tout le projet de oui. A à Z. Donc, finalement, c'est moi qui ai pris dès le début, comme ça, au moins, on
il fallait
sûr d'avoir
façon
un
quelqu'un.
Suivi.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc c'est pour ça.
Et alors, est-ce que vous avez une formation particulière?
Absolument pas. En fait, c'est... Comme n'importe quel type de projet, il y a le côté un peu on recherche, on fait un état des lieux au tout départ, on trouve le prestataire et ensuite c'est du travail de compilation qu'on doit fournir. Donc c'est vraiment de la médiation à l'état.
Mais vous me disiez tout à l'heure que quand même le prestataire, vous avez fait une petite formation quand même.
Oui, il nous a fait une formation juste avant finalement la tenue des ateliers pour nous expliquer... Comment fonctionne la construction? Comment ça marche les Lego? Il nous a prévenu qu'il y a certainement beaucoup de gens, notamment d'enfants, qui sont fans de Lego et il y a tout un vocabulaire qui va avec. Donc, c'était pour pas que nous, on soit trop largués par rapport à ça. Voilà, c'était une petite formation là-dessus.
Donc voilà, donc vous êtes enfin prêt, on va dire, le matériel rentre. Et donc je reviens à ma question des ateliers. Donc quand les gens vont arriver, qu'est-ce qu'on va leur dire, comment ça va se passer? On leur dit, vous vous mettez ici, vous entreprenez telle partie, comment ça se passe?
Donc ils arrivent, on s'installe tous ensemble dans une salle. Là, on fait une présentation un peu historique d'Ambrosome. On va retracer les différentes étapes de vie et d'habitat d'Ambrosome et comment on en est arrivé à ce relais routier, pourquoi il est là, à quoi ça sert, donc le lien avec la conquête romaine, et aussi comment est-ce que ça a été redécouvert par l'archéologie. Donc il va y avoir quand même un volet archéologique assez conséquent. Donc cette partie théorique, elle est prévue pour durer quarantaine de minutes au moins. Et après, donner toutes les consignes aux gens. Donc, de bien prendre son temps, ça va être du travail d'équipe aussi, entre ceux qui lisent les notices, ceux qui montent, et inversement. Et après, en effet, ils vont être répartis, on va avoir des pôles, des espèces de pôles avec des bâtiments. Là, on va avoir un bâtiment, globalement, quatre personnes autour d'un bâtiment. Pas plus, sinon ils vont se marcher sur les pieds.
Oui.
Et voilà, donc on va avoir différents pôles et on va répartir les gens comme ça.
Donc il va y avoir la forge, j'imagine.
La forge,
l'hôtellerie,
les auberges. On va avoir un bâtiment qu'on a qualifié d'insulae, qui pour le coup là n'est pas testé par la archéologie. On sait qu'il y a des bâtiments, on ne sait pas à quoi exactement ça faisait référence. On va avoir les thermes aussi. Et il y aura le pont.
On va donc ça fait six, si j'ai bien compté, six ateliers ou sept.
Donc hôtellerie, on a trois auberges, la maison à la forge, l'insulae, les thermes, on est à sept, plus le pont, huit. Et après, il va y avoir
les
alentours.
Voilà.
On va avoir de la forêt, un peu de végétation, la Via Domitia, il y a de quoi faire.
Et alors, est-ce que vous avez, autant que vous puissiez le savoir, des gens qui sont inscrits plusieurs fois? Ou alors vous avez dû dire non, c'est une fois chacun?
Il y en a qui ont essayé, mais on savait qu'on allait être pris d'assaut. Donc on a volontairement limité à une séance par personne. On s'était dit, éventuellement, oui, si c'est pas plein, on pourra reprendre les gens. Bon, c'est complet. Donc malheureusement, on ne peut pas... l'étendre à l'infini cet atelier, donc non, on a été obligé de limiter à un atelier par personne.
Alors une autre question, est-ce que après, parce que quand on repart chez soi, on est peut-être un petit peu frustré de se dire bon, je laisse tout là-bas, il n'y aura jamais moyen d'acheter un coffret Lego correspondant à ça? Pas dans la même dimension, évidemment.
Non, on n'a pas réfléchi à cette question-là, mais non, en fait, le prestataire ne le propose pas forcément. Il faudrait que ça soit quelque chose de réduit,
oui, parce
forcément.
Que lui, et ça, ouais.
Donc, ce n'est pas les mêmes modélisations non plus derrière avec le même nombre de pièces. Donc, on n'a pas creusé cette question-là.
D'accord.
Et ça serait pour le niveau budget, ça serait pas forcément
donné. Oui, alors justement, question budget, parce qu'il faut quand même que je rappelle aux auditeurs que ce qui est incroyable à Ambrosome, c'est que le musée est gratuit. Le site, l'entrée est gratuite et on peut y aller en permanence. Donc, ça a quand même un coût. Qui va financer cette opération Lego?
Eh bien, on est un service de l'agglomération de Lunel. Donc, c'est quelque chose qu'on a budgétisé, nous. On a un budget chaque année et donc on a fait une ligne spéciale pour les Lego. Donc, évidemment, ça coûte plus cher que nos ateliers habituels. Donc,
oui.
Ça veut dire qu'on a fait moins sur nos... on a vu moins grand, on va dire, sur nos
bien
autres
sûr.
Ateliers. Et en fait, on jauge comme ça.
Oui, sachant que cet atelier, bon, là, ça dure deux semaines, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on va en profiter un temps infini. Ça va être donc exposé jusqu'au mois de mars.
Jusqu'au mois de mars, voilà.
Ça fait donc six mois, quoi. C'est pas mal.
Pratiquement,
hein.
Oui.
Vous allez avoir du regret quand ça va s'en aller.
Sûrement beaucoup, quand il va falloir tout démonter.
Oui, c'est vous ça qui allez démonter ou c'est le prestataire?
On n'a pas encore vu ces modalités-là, mais il y a de grandes chances que ça soit nous, étant donné qu'il n'est pas, du territoire. Il vient quand même du côté de Lyon, donc je pense que si on veut lui faciliter un peu les choses... Sinon, ça va prendre, je pense, un peu de temps. Donc,
vous allez être super organisé, là. Manon nous a bien expliqué ce projet pharaonique, presque, de ce Lego géant participatif et éphémère. Et il tente maintenant de se rendre dans l'atelier, de l'écouter dans un premier temps présenter d'une manière théorique le site d'Ambrusum pour le contextualiser et mieux faire comprendre les éléments du Lego. Puis ensuite, micro-trottoir, j'irai traîner mon micro dans la salle à écouter les uns et les autres expliquer leur travail.
Ambrusum, c'est peuplé depuis 4000 ans. On a vraiment les premières populations qui arrivent à la toute fin du néolithique, qui vont s'installer là-haut sur la colline. Donc, à proximité du fleuve pour avoir les ressources en eau et en pêche aussi, mais suffisamment haut pour ne pas subir les inondations. Si vous connaissez aussi le Vidour, mais voilà, pour ne pas subir les inondations. On sait que le Vidour, en fait, ça fonctionne par cycle. Donc, il y a des cycles où ça va être très très calme, ça peut pendant des années, il peut ne pas y avoir d'inondations. Et il va y avoir des périodes avec des gros dérèglements hydrologiques, et dans ce cas-là, vaut mieux pas être à côté. Donc on s'installe plutôt là. On sait qu'il y a un habitat continu, j'avance très vite dans le temps, pour arriver entre 300 et 200 avant Jésus-Christ, où là on a vraiment une tribu gauloise qui appartient à une confédération. Les Volcari coniques, peut-être que si vous vous baladez à Nîmes, vous en entendrez parler aussi. Et donc cette tribu gauloise a vraiment installé son village là-haut sur la colline aussi, entouré d'un grand rempart. C'est pour ça qu'on parle d'oppidum aussi, c'est un mot latin, mais qui caractérise finalement un village gaulois fortifié, souvent placé sur une hauteur. Et donc ce rempart, à votre avis, c'est pour se protéger de qui? C'est une question piège.
Des Romains?
Des Romains. Et c'était la question piège. C'est pas des Romains. Ils sont encore assez loin à ce moment-là.
Ouais. De l'eau?
Non, pas de l'eau. La colline, ça suffit à se protéger de l'eau. Là, globalement, à côté du Vidour, on est à 13 mètres de hauteur. Dès qu'on monte ici, on est à 50 mètres. Ça suffit. Normalement, pour l'instant, d'ici une centaine d'années, on ne sait pas, mais des autres tribus gauloises. Les Gaulois, contrairement à ce qu'on a souvent tenté de nous le faire savoir, c'est pas un seul et même peuple uni. Il y a plein de tribus et ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts non plus, donc ils se font quand même pas mal la guerre. Et en gros, somme, au pied des remparts, on a retrouvé énormément de boulets, de balles de fond et autres. Donc il peut y avoir des périodes avec de sacrées batailles en tout cas. Donc ce rempart-là, c'est vraiment pour se protéger des autres tribus gauloises. Parce qu'à cette époque-là, les Romains sont encore en Italie, ils ne restent pas encore tout à fait à la Gaule, on va dire. Vous voyez, on a retrouvé aussi des traces d'habitat gaulois à côté du Vidour. Pour montrer que voilà, c'est ce dérèglement hydrologique, peut-être qu'il y a eu une accalmie qui a permis d'avoir quelques petites maisons à côté du fleuve sans que ça pose problème. Et en contrebas, finalement, le musée, il faut imaginer qu'il est là. Et juste à côté, on a retrouvé la nécropole, construite au tout départ. Et à partir du moment où la romanisation se met en place, là, on va pérenniser un petit peu cet accès-là. Et donc ce changement d'urbanisme, ça va se faire globalement à la fin du 1er siècle avant notre ère, vraiment au changement d'ère finalement. C'est là où il y a le plus de changements, au moment où l'Empire romain se structure aussi. C'est là où vraiment il y a tout qui se transforme un petit peu. Donc le pont va être en pierre, vous voyez, il est très long dans le but de pouvoir toujours traverser le fleuve, même s'il est capricieux. Là-haut, on va détruire une partie du rempart, parce qu'en arrivant, les Romains, ils vont pacifier toute la région, donc on n'a plus toutes ces guerres entre Gaulois. Bon, un rempart plus trop utile. Et il y a tout cet espace qui va être construit, la station routière.
Alors, votre méthode, tous les deux, c'est de quoi faire, alors?
On en fait une chacun, comme ça.
Mais une quoi?
Une étape chacun, et celui qui la fait pas, il trouve les pièces de l'autre.
Ah, d'accord, donc c'est véritablement un travail d'équipe, c'est un travail alternatif pour un Lego qui est un Lego collectif et un Lego éphémère.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes 4 personnes?
6.
6, ah.
Et vous êtes destiné à fabriquer quelle partie du Lego?
L'hôtellerie.
L'hôtellerie. Et vous avez choisi pour quelle raison?
Parce qu'on est plusieurs et c'est un très gros bâtiment. Et aussi parce que le bâtiment nous semblait intéressant.
D'accord. Vous êtes des fans de Lego ou c'est la première fois?
Non, on est des fans, même si je crois que c'est la première fois que je travaille sur un truc aussi gros.
Et alors, par exemple, qu'est-ce que tu as fait de un tout petit peu moins gros, mais quand même impressionnant?
Principalement, d'habitude, on travaille avec des boîtes. Donc, sur les Lego Star Wars, j'ai principalement fait un croiseur, le Faucon Millennium, donc c'est des sets de plus de 1000 pièces. J'ai aussi fait une version du château d'Harry Potter en miniature.
Mais rien concernant l'Antiquité jusqu'à présent?
Alors, non, parce que les sets sont très rares et j'ai pas l'occasion de travailler souvent dans des ateliers pareils.
D'accord, très bien. Et l'Antiquité vous intéresse par ailleurs? Vous connaissez le site et...
Oui, j'y viens très souvent parce qu'on habite à proximité et j'aime beaucoup la romanité et la Grèce antique.
Il a même fait un stage ici de 3e.
Très bien. Bonjour, alors là je vois trois personnes qui s'attellent à fabriquer quoi dans la grande maquette de Lego d'Ambrosou?
La forge,
d'accord. Alors là vous avez déjà fait le périmètre, ça va vite hein?
Oui.
Apparemment vous êtes habitué à faire des Lego.
Oui, ça va, moi j'en fais, mais j'en fais pas très très souvent, mais ça va.
Et l'Antiquité vous intéresse?
Ah oui, moi l'Antiquité c'est ma passion.
Bah ça c'est génial, très très bien, bah bon courage.
Merci.
Bonjour, alors vous êtes en train de fabriquer quoi? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire?
L'auberge.
Et alors, tu as un plan devant toi et vous êtes pour le faire 6 personnes. Ça va aller? Vous sentez d'attaque? C'est bon. Très bien, bon courage.
Merci.
Bonjour, alors vous n'êtes que deux.
Hein?
Oui. Un duo parfait pour fabriquer le pont apparemment.
Exactement.
Alors pourquoi vous avez choisi le pont?
C'est quelque chose d'un peu d'antique, quelque chose de très vieux, ça raconte plein d'histoires.
Et alors tu es habitué à faire du Lego apparemment,
oui.
T'as l'air aguerri, hein? Et la maman aussi?
Un peu moins, mais je le suis, je fais confiance.
Et bien bon travail.
Merci bien.
Alors vous êtes parti pour fabriquer quelle partie du relais?
Là, on va faire les thermes.
Les thermes? Il y a du boulot, hein, parce qu'apparemment, c'est assez grand.
Ouais.
Et vous êtes trois. Vous serez d'attaque, trois?
Oui,
vous êtes habitué
des professionnels.
Ah bon, vous êtes habitué à faire des Lego?
Ouais, oui. Ouais.
Alors donnez-moi un exemple de ce que vous avez fabriqué en Lego.
On fait du Star Wars, nous, mais ouais, on fait des trucs, ces tailles-là, 4 plaques, c'est gros. Ouais, c'est...
Ils font beaucoup de vaisseaux, ils font beaucoup de choses en fait, de l'univers Star Wars. Mais aussi, par exemple, quand on regarde des émissions de télé, ils aiment bien reproduire en fait, les émissions de télé. Par exemple, Koh-Lanta, quand on regardait, ils reproduisaient en fait, les personnages de Koh-Lanta, les poteaux.
Donc vous n'êtes pas simplement dans le fait de fabriquer des choses toutes faites, vous inventez aussi?
Beaucoup.
Ah.
Oui, ou alors des fois on achète les vaisseaux construits, on les casse pour les pièces.
D'accord.
Voilà, c'est plus la recherche de la pièce en fait,
oui,
qui est
oui.
Intéressant. Mais, et après bah, de ce. Ouais, c'est pas la notice. La notice à la limite, voilà, c'est l'invention.
Vous aimez créer quoi.
Oui. Oui,
très bien.
Oui.
Alors là, je vois deux garçons qui sont en train de fabriquer une Insula. Et l'Insula, est-ce que vous savez ce que c'est ou pas du tout?
Pas du tout.
Alors l'Insula, c'est un bâtiment à plusieurs étages, avec plusieurs appartements. C'est pas une maison. C'est comme aujourd'hui nos appartements. Un habitat collectif, exactement. Là, vous avez l'air d'être rapide. Vous avez déjà fait quoi là-dedans, dans l'Insula?
Là, on est en train de faire le bas de l'immeuble.
Le bas de l'immeuble, le socle, la base. Et vous pensez que d'ici la fin de l'atelier, vous aurez réussi à faire tout le bâtiment?
Je pense pas, non.
Non. Parce qu'il va falloir arriver jusqu'au toit avec les fameuses tuiles romaines. Et bon courage, Robin et Alexis.